On dit quoi? On dit quoi?
On dit quoi? C'est la manifestation artistique et citoyenne de la Fabrique francophone.
Du 16 au 18 juin, la Fabrique francophone de Cahors vous propose d'accueillir les imaginaires du monde dans le cadre de la manifestation artistique et citoyenne On dit quoi?
Le projet, c'est vraiment d'accueillir les imaginaires du monde à Cahors.
Une deuxième édition, durant laquelle les cultures d'ici et d'ailleurs se réuniront à la croisée des arts, des performances, des concerts, des lectures, des rencontres, du théâtre et même un studio de radio à ciel ouvert auquel participera Antenne Doc. Retrouvez le programme en détail de On dit quoi sur le site internet de la Fabrique francophone et rappelons que cet événement est gratuit.
Venez, il ne manque que vous.
Toujours à l'écoute du plateau de radio en direct à ciel ouvert ici sur On dit quoi, organisé par la Fabrique francophone de Cahors. Je suis en compagnie de Lauriane. Bonjour Lauriane.
Bonjour William.
Et ensemble, nous recevons pas n'importe qui dans le monde de la Fabrique. Hein.
Oui, Gustave Agakpo.
Bonjour Gustave.
Beaucoup de textes pour la compagnie ACT, qui a été mis en scène par la compagnie ACT. Donc, tu connais Cahors.
Oui,
Gustave,
je connais Cahors.
Voilà,
oui.
Oui. Et tu viens dans le cadre du festival et tu vas participer à pas mal d'événements du festival, dont cet après-midi à 16h, Qui dit quoi, qui rassemble tous les auteurs et les autrices qui sont venus sur le festival.
Oui.
Ce moment, tu en attends quoi, justement ce...
J'en attends quoi? Déjà, que je puisse bien l'animer, puisque c'est moi qui vais faire le passeur de parole. Voilà, on va surtout parler de la question de la francophonie. Qu'est-ce qu'elle représente pour nous aujourd'hui? Quels sont les rapports de chacun des auteurs, autrices présentes par rapport à ce mot, par rapport à cette organisation, par rapport à cet espace-là? Et puis aussi le public aussi. Hein, voilà.
Et alors, la francophonie? Pour toi, Gustave, ça veut dire quoi?
La francophonie. Alors déjà, c'est un mot qui me fait quelque chose dans le ventre toujours. Ça me remue.
C'est lourd de sens. C'est lourd d'histoire.
C'est lourd de sens. C'est lourd d'incompréhension. C'est lourd de boxe, de situation où en fait c'est un mot auquel j'ai mal. C'est un mot auquel j'ai mal parce que je trouve que c'est un mot qui aurait pu être beau. Qui aurait pu être beau parce que quelque part c'est un mot qui a été repris par même si on parle de l'organisation politique de la francophonie, ce sont des anciens présidents des présidents, des pères de l'indépendance, des gens comme Nasser qui se sont dit on est dans un même continent, on se connaissait pas forcément, il y a une colonisation, on parle la même langue, ça définit quelque part qui nous sommes. Est-ce qu'on peut en faire quelque chose? Donc, il crée cette organisation à laquelle la France n'a adhéré que très tardivement. Et ça participe de la même chose que quand moi, je suis arrivé en France en me disant, tiens, je suis francophone. Et puis, j'ai rencontré des Français qui ne se sentent pas du tout francophones. Pour moi, c'était comme une évidence qu'ils devaient être francophones. Et là, je saute plein de choses. Et puis, il y a quelques années, j'ai fait ma demande de naturalisation, de demande de nationalité française. Et j'ai eu un peu de mal à rassembler tous les papiers, mais... Le truc, c'est que j'ai le test. Il faut faire un test de langue. Donc, j'ai fait un test de langue qui était périmé d'un mois au moment où j'ai rassemblé tous mes documents. Je l'ai envoyé à la préfecture. Ils m'ont répondu en disant, voilà, votre test est périmé. Bon, j'ai écrit une lettre en disant, je suis désolé, franchement, voilà, mais bon, je parle, je suis francophone. Je parle le français. Je suis écrivain. Je fais des ateliers d'écriture. Je parle. Je pense que je suis quelqu'un. En plus, j'aime les langues. Donc, je transmets la passion de la langue française à des Français. Des Françaises à l'école et donc je pense que ça devrait suffire à faire quelque chose. Non, vous avez votre test de langue est périmé d'un mois, donc il va falloir tout recommencer pour votre demande de nationalité. Je ne l'ai pas encore recommencé, mais c'est quelque chose qui, c'est peut-être anodin, mais ça m'est vraiment resté sur le ventre. Je pensais que c'était une communauté, mais c'est ça le problème, c'est jamais une communauté.
Alors, la francophonie, une langue utilisée en partage, mais il y a aussi nos langues natales, les langues qu'on parle en famille, les langues pour parler avec nos anciens. Comment tu fais avec ces deux langues? Comment tu vis ça, toi, en fait? Parce que comme tu viens de l'expliquer, oui. On te demande d'apprendre le français pour t'intégrer et que oui. tu croises quelqu'un.
Ah non, j'ai pas appris le français pour m'intégrer du tout.
Enfin, pour avoir les papiers, on demande en France pour avoir
non,
les papiers.
Non, oui, on demande de faire un test de langue. Ouais, oui. Déjà, c'est une aberration de demander à un francophone de faire un test de langue française.
c'est une méconnaissance.
Déjà, oui, c'est une méconnaissance totale. Parce qu'en plus, dans beaucoup de pays francophones, on parle mieux le français qu'en France. Parce que tout simplement, je pense que c'est comme on a un premier rapport pour certains par l'école. Et qui a donc on a un certain respect, une certaine amour, parce que peut-être c'est aussi parce que comme c'est une langue adoptée, il y a peut-être qu'il y a quelque chose où on est plus à vouloir, comme on a pendant longtemps pensé que les Africains n'ont pas de civilisation, donc qui pensent toujours qu'ils n'ont pas d'histoire. Donc il y a peut-être aussi cette façon, en tout cas pour les générations précédentes, de montrer déjà les premiers écrivains, écrivaines africains, déjà devaient prouver qu'ils écrivaient aussi bien le français que les auteurs français. Donc il y a aussi cette défense de la langue. Et je trouve que c'est quelque chose qui n'est pas connu, qui n'est pas pris en compte. Parce que si c'était pris en compte, on ne demanderait pas à un francophone de passer un test de langue, déjà, à la base.
Alors on commence à parler d'écriture. Tu es un écrivain. Alors, l'écriture, c'est ce que tu voyais, tu te voyais faire au début de ta vie, ou alors tu avais d'autres ambitions, d'autres rêves?
Non, enfant, je me rêvais explorateur, je me rêvais aller au pôle Nord, voilà, et puis je crois que je suis assez paresseux, et puis finalement, l'imaginaire, c'est aussi être explorateur. En tout cas, j'ai toujours aimé lire, écrire, et puis c'est fait que la vie a fait que je suis devenu écrivain.
D'accord. Et alors, au niveau de tes écrits, qu'est-ce que tu as écrit? Où est-ce qu'on peut retrouver ce qui a été fait?
Dans les librairies, en passant commande chez les libraires. J'ai écrit essentiellement du théâtre. J'ai trois éditeurs, éditrices qui sont fidèles. Émile Hansmann, Actes Sud Papier, enfin en tout cas la collection jeunesse, Ryoka, et puis Théâtral, qui sont les maisons d'édition où on peut trouver mes livres. Mais d'accord. Comme c'est du théâtre aussi, on peut aussi les voir sur scène.
Et alors, il y a avec La Fabrique, il y a avec Cédric, oui. Ton histoire aussi, parce que comme l'a dit Lauriane tout à l'heure, avec la compagnie ACT, il y a eu beaucoup de choses qui ont été faites. Oui, oui. Et comment tu vis cette aventure? Comment chez toi ils vivent aussi cette aventure quand ils voient tes spectacles mis en scène, quand la compagnie ACT vient?
Ouais. C'est une histoire de rencontre essentiellement, parce que la rencontre avec Cédric Brossard s'est faite par le biais d'un comédien, Kader Touré, qui était amoureux d'un de mes textes, Arrêt sur image, et qui l'a proposé à Cédric de le mettre en scène, et puis par la suite Cédric m'a rencontré, et puis de ça est né ce compagnonnage où Cédric a eu envie de monter d'autres de mes textes, et puis on est devenu potes. Voilà.
Et alors on a quelqu'un qui vient d'arriver. Ah, vas-y Lauriane, pardon.
Et comme La France est belle, c'est ta dernière création, la pièce qui va être jouée dimanche.
C'est pas la dernière, mais c'est la dernière dans laquelle j'ai écrit et que je joue. Et je joue avec Frédéric Blin. On est deux sur scène. Et c'est une. Alors, ça parle de la langue, parce que, en fait, c'est une pièce qui est née. C'est un spectacle, surtout, qui est né dans le cadre du dispositif du Festival d'Avignon qui s'appelle Vive le sujet, où on propose à deux artistes qui n'ont jamais travaillé ensemble, venant de deux disciplines différentes autour de l'écriture, de collaborer. Donc, dans cette collaboration, Fred, on s'est retrouvés. On se connaissait un peu de vue, mais pas vraiment. Et on s'est dit, tiens, de quoi est-ce qu'on va parler? Évidemment, la chose qu'on a en partage, c'est la langue française. Et à partir de là, le rapport à nos langues, sachant que moi, j'ai deux langues maternelles, la langue française et la langue Mina. Donc, ça parle de ça, de comment cette langue aussi est un espace de circulation, mais qui peut être aussi une barrière, ce qui n'est pas le cas d'une frontière est toujours beaucoup plus intéressant qu'une barrière, parce qu'on oublie souvent qu'une frontière, la peau est une frontière, et si elle est fermée, on meurt, il n'y a pas de port, donc frontière veut dire forcément porosité, et ça on l'oublie souvent.
Alors, c'est une belle manière, je trouve, d'annoncer l'invité qui est en train d'arriver avec nous. On a.
Oui, bravo.
Bravo, Gustave. Non, mais on va l'embaucher. Tu vas rester avec nous. Et bien, Zora Snake qui vient d'arriver sur ce plateau radio. Zora Snake, tout à l'heure, et bien, tu m'as un petit peu chamboulé. Moi qui, en général, quand je vois de la danse, je me dis j'ai du mal à comprendre. Et bien, là, pour une fois, je l'ai pris en plein dans la gueule. Excusez-moi pour la vulgarité de ce que j'ai vu. Transfrontalier, une performance à l'aide d'un matelas, d'un rouleau de fil barbelé. Et tu essayes de passer les frontières de ce monde avec tout ça. C'est bien présenté comme ça, Zora ?
Oui.
Alors, bien près du micro, s'il te plaît.
Oui. Eh ben, je suis aussi très ému de trouver et de voir que en face de moi, ça a été bouleversé. Donc, je suis aussi bouleversé. Et c'est dans ce bouleversement-là que je questionne l'humanité, quoi. La question des frontières, ouais. Et évidemment, il n'y a que mon corps, parce que la parole est muselée. Surtout dans un contexte comme le Cameroun et dans l'actuel monde où dire des choses, je crois que peut-être passer à une autre étape où les performances deviennent des éléments compléments de la parole, des mots en complicité avec des auteurs par exemple. Donc c'est pour ça qu'il y avait pas mal de textes d'auteurs et d'autrices pendant la performance.
Mais pas que. Il y avait aussi des extraits médiatiques qui font froid dans le dos quand on entend les discours d'extrême droite devant toi qui danse. Ça fait quelque chose. Ça remet en question un petit peu. On a envie d'éteindre sa télévision et de sortir.
Oui, évidemment, c'est fait exprès aussi de poser le geste à l'endroit même du débat, à l'espace Carrefour, où c'est quoi aujourd'hui la frontière, c'est quoi aujourd'hui... Il n'y a pas que au niveau géographique, quoi. Il y a aussi.
C'est bien près du micro, s'il te plaît.
Il y a aussi bien les frontières mentales, physiques aussi. Pourquoi on n'arrive pas à se suivre passer ? Parce qu'évidemment, on est gavé en longueur de journée des choses qu'on dise et parfois des choses un peu biaisées à la base. Parce que, quand on montre assez des images de l'Afrique en Europe, je crois qu'il faut être en Afrique pour mieux comprendre la réalité, quoi. Donc, il ne s'agit pas juste de venir peut-être en Europe, mais ça commence aussi, la question entre parenthèses migratoire, c'est aussi au sein du Cameroun, donc entre les villes, entre les villages, pourquoi on ne peut pas y accéder. Donc du coup, tout part de là pour parler de justement la question des frontières dans le monde, quoi. Donc c'est pour ça qu'il y a des débats, le discours politique aussi pour contester justement avec l'extrême gauche, l'extrême droite et l'artiste. Donc c'est une schizophrénie à trois jeux où il y a cet artiste qui est à la fois cadenassé, mais qui est le porte-parole des colères de l'humanité concernant les frontières entre la gauche et la droite, et je suis au milieu.
Alors, tout à l'heure aussi, tu vas animer, tu vas nous parler de quelque chose, nous dire que l'art est une boxe.
Ouais.
Ça soit aussi ça. Alors, après avoir vu une danse. Une performance avec un matelas du barbelé, maintenant l'art est une boxe. Dans quoi tu vas encore nous amener après tout à l'heure ?
Il faut dire qu'avec On dit quoi ou Cédric Bossa, on se connaît quand même pas mal des années. Et puis on s'est rencontrés, je crois, au Récréatral, au Burkina Faso en 2016, où on s'est liés. Et je crois que ce lien sera à vie, parce que c'est des questions de risque et on y va. Donc, l'art est une boxe, en fait, avec mes complices, Julie Piguini et Feu Dominique Malaquet, qui est décédé en octobre 2021, je crois, qu'on a voulu écrire, laisser une trace écrite, archives comme ça sur la question de la performance et la question du politique au Cameroun, en Afrique et dans le monde. Donc pourquoi ça fait reculer le politique au lieu que ça les fasse plutôt prendre conscience qu'on est là pour bâtir l'humanité. Il y a pas, donc l'art est une boxe, c'est pour ça que c'est écrit une boxe. C'est aussi venu de l'inspiration du texte de Dieudonné Nyanguna, m'appelle Mohamed Ali. Où le comédien était Étienne Mindongo. J'ai vu ça passer à l'Institut français du Cameroun et ça m'a aussi bouleversé comme ça. Ça m'a donné un coup de shot comme ça qui m'a permis de réveiller aussi la dimension de ma performance à un autre degré aussi. Et l'écrit, pour moi, je pense que c'est assez juste parce que Il y a la trace physique dansée, mais qui reste dans l'imaginaire. Mais il y a ce qu'on souhaiterait que ça soit immortel par écrit, par exemple. Voilà, donc l'art est une boxe. C'est les premières tentatives de bout de moi, comme ça, des bouillons de moi, comme ça, que j'élabore pour le rendre visible sur un papier blanc.
Alors toi, Lauriane, tu y étais tout à l'heure ?
Oui, j'étais à la performance et bon, ça a beaucoup interpellé parce que comme j'étais dans le public, il y avait c'était sur le marché de Cahors, hein, pour préciser, et donc les gens se demandaient, voilà, qu'est-ce qu'il fait ? Il a mal, il tire ce matelas. Mais tu allais aussi vers des gens et je me suis demandé qu'est-ce qui s'était passé dans ces interactions avec les personnes qui étaient dans la rue autour de toi et vers lesquelles tu es allée.
D'ailleurs aussi, ce que Gustave disait concernant les frontières de la peau, mais il y a aussi des frontières qu'on ne voit pas, qui sont là, c'est là, l'imaginaire. Donc parfois je ressentais, tu vois, des gens qui brisent cette glace entre moi, l'inconnu qui est là, et eux, allant jusqu'au toucher. Mais il y a d'autres que invisibles, il y a la frontière est là. Et je sentais qu'il ne faut pas que je me rapproche plus. C'est aussi ça, le jeu, le danger de l'extrême. Et donc, cette frontière invisible, ça existe en fait, la frontière invisible. Donc, parfois, les personnes en face réagissent en fonction de leur endroit. D'autres créent vraiment la rupture, d'autres scellent encore plus en disant, comme là, le groupe de trois avec le chien, je comprenais, le chien ne va pas aimer. Donc, ça veut dire que, tu vois, il se substitue au chien, son imaginaire. Il dit que le chien ne va pas aimer. Déjà, il met la frontière. Donc... Donc, voilà. Donc, ça dépend vraiment des lieux, des endroits, des personnes, des territoires. Voilà, en Afrique, ils vont comprendre. D'autres vont venir à 1000 pour venir m'aider à pousser le matelas. Mais là, il y a quelque chose qui se retient aussi, donc, par rapport au marché. Mais ce qui est bien, c'est que c'est aussi ça, comment avaler le marché là, dans ces sujets aussi, aussi fragiles sont les frontières.
Oui, c'est pas un sujet simple à aborder, d'autant plus que là, l'actualité de ces derniers jours nous a encore fait froid dans le dos. Quoi. Ça fait encore mal, hein, les dernières nouvelles de la Méditerranée. Ouais. Donc je comprends, en fait, quand on voit un spectacle comme celui-ci, ça peut interloquer. Moi, dans le public qui était là, des personnes sont venues me demander mais qu'est-ce qui se passe ? C'est une association humanitaire qui essaye de faire une flash mob. On m'a demandé ça. Je fais non, c'est un acte artistique purement, mais qui est quelque part militant ou pas. Chacun a pris d'y voir aussi ce qu'il veut entendre. Hein, parce que l'enfermement dont tu parles, on peut vivre ici le même enfermement, sans, même en étant peut-être même natif de l'ici, en fait. Ça, c'est un peu partout qu'on peut être tiraillé comme ça par... Mais comment aller vers l'autre quand il est différent ? Et peu importe cette différence, quelque part. Mais que là, malgré tout, la différence dont on parle ici, c'est une différence qui est marquée, j'ai envie de dire, du sang de l'histoire, marquée du sang du colonialisme, marquée du décolonialisme derrière tout ça. Qu'est-ce qu'il en reste aujourd'hui ? Ouais. Quel lien on peut avoir avec ses racines ? C'est une question que je me pose, moi.
Moi aussi, comment réfabriquer les restes d'aujourd'hui ? Reconstituer un monde possible, je sais pas quoi, où les frontières n'existeront peut-être plus.
Il y a quelque chose que j'ai trouvé audacieux aussi, c'est que dans les paroles que l'on a entendues, il n'y a pas eu de traduction de toutes les langues, et même des langues européennes, dont de l'allemand que les gens ne connaissent pas ici. Ouais. Et ce mélange de langues était vraiment intéressant parce qu'en fait, on ne savait pas, comme tout le monde était très vindicatif, si c'était positif ou négatif. Alors, il se trouve que je parle allemand, donc j'ai compris que la personne défendait le droit de traverser les frontières. Mais on pouvait, en fait, dans les paroles, on n'arrivait pas à savoir. Ça cristallise tellement de colère que dans les deux sens, ça, c'est une boxe. La politique est une boxe. C'était très intéressant et très audacieux de se permettre de ne pas le traduire.
Oui. C'est fait exprès d'ailleurs pour comprendre aussi comment le spectateur, entre guillemets, pour comprendre aussi comment le spectateur, entre guillemets, voit une performance, même si, ou bien un spectacle, en une langue qui n'appartient pas. Tu vois. Et pour moi, j'ai fait confiance au vocabulaire du corps à cet endroit.
Alors là on a Gustave et Zora Snake. Gustave, quelle question tu poserais à Zora ?
Quelle question. Non, enfin, j'ai pas de question, mais j'ai une chose qui m'a saisi dans ce que tu as dit et que je vais te piquer, hein, qui va se retrouver dans un de mes textes. Quand tu as parlé des restes, et je trouve que aujourd'hui, vivre, c'est l'art d'accommoder les restes. Je trouve que voilà, ça m'a saisi tout d'un coup. On est dans quelque chose où on sait qu'on épuise de plus en plus la planète. Ça va être de plus en plus violent au niveau des changements climatiques. Oui. Avec ces restes-là, qu'est-ce qu'on fait ? Ça me fait penser à ce que tu as à l'extrait de Fatou Diom qui dit aussi la richesse, soit on est riche ensemble, soit on va couler ensemble. Voilà, ces deux choses qui m'ont fait... qui m'ont fait tilt. Et puis tout à l'heure vous parliez aussi de par rapport des langues et de ce qu'on ne sait pas, ce que ça traduit, ce que ça cristallise comme situation. Et je trouve que ça c'était quelque chose qui est peut-être pas assez dit au niveau de l'Europe, c'est-à-dire que l'étranger est toujours le révélateur de sa propre société. C'est-à-dire que la façon dont l'Europe se comporte envers l'immigrant raconte comment l'Europe se comporte envers lui-même. C'est peut-être ça qu'on ne sait pas jamais. Et moi, j'ai souvent l'habitude de dire comme une boutade que l'Afrique, c'est l'avenir de l'Europe. Et que si les Européens étaient vachement intelligents, ils verraient ce que l'Europe fait en leur nom en Afrique, où le capitalisme peut s'exprimer à visage découvert et nu, où on verra vraiment le visage du capitalisme. Et quand on prend les camps de concentration, ça a été né en Afrique, ensuite ça s'est retrouvé en Europe. Les programmes d'ajustement structurel, ça a commencé en Afrique, ça s'est retrouvé avec la Grèce. Mais c'est pareil, ce que l'Afrique vit aujourd'hui, c'est ce que l'Europe vivra plus tard. Donc,
ah, c'est vachement beau, celle-là je pique.
Alors, et toi Zora, quelle question tu poserais à Gustave ?
Non, pas une question, hein, mais
une chose à lui dire.
Ouais, voilà. Mais là, on est là en fait pour et je vais redire en fait, je profite pour l'occasion parce que je lui ai dit un peu hier que les mots sont tellement chargés et donc à force de lire les auteurs donc qui figurent aussi parmi les personnes que je suive, ça éclate à l'intérieur de ma manière à moi de poser l'acte artistique, le geste quoi. Et donc, du coup, je prends appui par les mots, comme il dit, que l'Afrique aujourd'hui, ce qu'on subit, l'Europe va subir ça. Donc, tu vois, c'est le reflet du bientôt de l'Europe. Mais ce bientôt-là aussi, pour moi, j'essaie déjà de créer des imaginaires performatifs, quoi, pour inventer le futur monde où l'Afrique va s'échapper de tout ce qu'on attend d'elle depuis. Merci.
Mais merci beaucoup à vous deux. Alors, nous étions avec Gustave Akakpo. Alors, toi, Gustave, on peut te retrouver tout à l'heure à 16h, si je ne m'abuse, pour parler pour qui dit quoi, les écritures en dialogue. Alors, tu seras avec tout un tas de monde. Hein. Ça va être difficile de citer ici. On a par exemple Cyril Atlan qui était hier soir sur la scène, qui nous a emmené dans une espèce de voyage dans la psychiatrie de l'Algérie post-colonisation. C'était un peu... On s'en rappelle encore. Voilà. Et ensuite, on te retrouve où ? Peut-être toi, Doloriane, tu connais le programme aussi de tête ?
Alors ensuite, demain midi, tu animes le pique-nique où tous les citoyens sont conviés à rencontrer les auteurs et les autrices. Donc venez participer à ce repas convivial. Et à 15h demain également, Comme la France est belle, donc c'est le texte dont tu parlais tout à l'heure, où tu es en duo avec Frédéric Blum. Mmh. Voilà.
Et pour toi, Zora, on te retrouve d'ici quelques instants. Là, va démarrer bientôt L'art est une boxe, de la performance du politique. On vient d'en parler un petit peu, mais alors là, ça va être l'occasion d'en parler beaucoup. Tu seras en compagnie d'une anthropologue, Julie Peguini.
Ouais.
Voilà ce qui se passe pour vous tout à l'heure.
Ouais.
Et merci beaucoup de votre passage ici au studio. Et puis, revenez quand vous voulez. Ouais, on n'est pas encore parti, on est encore là.
Merci.
Merci beaucoup.
On dit quoi ? On dit quoi ?
On dit quoi ? C'est la manifestation artistique et citoyenne de la Fabrique francophone.
Du 16 au 18 juin, la Fabrique francophone de Cahors vous propose d'accueillir les imaginaires du monde dans le cadre de la manifestation artistique et citoyenne On dit quoi ?
Le projet, c'est vraiment d'accueillir les imaginaires du monde à Cahors.
Une deuxième édition durant laquelle les cultures d'ici et d'ailleurs se réuniront à la croisée des arts, des performances, des concerts, des lectures, des rencontres, du théâtre et même un studio de radio à ciel ouvert auquel participera Antenne Doc. Retrouvez le programme en détail de On dit quoi sur le site internet de la Fabrique francophone et rappelons que cet événement est gratuit.
Venez, il ne manque que vous.